ta dernière tombe. S'il vous plaît. Ok, donc on a vu les subdivisions du droit privé, on a vu les subdivisions du droit public. Nous reste à mettre à l'épreuve ce qu'on expliquait d'une espèce de zone de gris qui démontre bien qu'en fait, pour certaines matières, le classement dans l'un exclusivement ou dans l'autre exclusivement ne fonctionne pas tel quel. C'est la question des droits mixtes, ça fait l'objet d'un paragraphe 3. En fait, ces droits mixtes qui vont relever cumulativement des deux branches du droit. Alors, il n'empêche, et c'est ce qu'on va voir, qu'on va les classer. Parce qu'il y a une nécessité de le faire. Au bout d'un moment, reprenons rien que l'exemple que je vous ai donné avec le fait que l'opposition publique-privée, elle se retrouvait dans les ordres juridictionnels, donc que vous aviez des instances, des juridictions compétentes pour le privé et des juridictions compétentes pour le public. Il y a un moment où il faut qu'on sache quel juge on choisit. Donc, ces droits mixtes, on va les classer. Mais, c'est des droits qui, quand on les examine, ne sont pas des droits qui relèvent du tout exclusivement soit de l'un, soit de l'autre. Il y a un cumul des deux, et c'est ce cumul qui explique qu'on les mette en réalité dans les droits mixtes. Encore une fois, ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas parce que c'est une division que c'est une division absolue. La dualité, en quelque sorte, entre public-privé, elle est très utile en tant qu'instrument de classification pour ordonnancer une espèce de méandre des règles juridiques, mais elle n'est pas complètement hermétique. Voilà. Il y a une zone, une espèce d'entre-deux, où en fait on a l'impression que le droit considéré, donc là je vous ai dit quelques exemples, on pourrait en citer d'autres, mais le droit qu'on va considérer emprunte autant, ou en tout cas emprunte un peu à l'un et un peu à l'autre. Voilà. Il a une coloration peut-être plus privée ou plus publique, mais il y a des deux. Quelques exemples. Le premier, sans doute le plus discuté aussi, mais c'est parce que c'est celui où il y a le plus de questions, mais où les questions sont sans doute les plus importantes aussi en termes de société. C'est la question du droit pénal. A priori, vous voyez tous, même sans en avoir fait, ce que recouvre le droit pénal. Donc c'est la prise en compte des infractions. On disait hier que vous avez trois catégories d'infractions: contravention, délit et les crimes tout en haut. Le droit pénal, c'est ça, qu'on désigne aussi parfois sous le nom de science criminelle ou de droit criminel. C'est donc un droit, le droit pénal, qui a pour objet de sanctionner les comportements contraventionnels, délinquants ou criminels. C'est-à-dire, encore une fois, les comportements qui ont commis une infraction, une contravention, un délit ou un crime. Voilà, le droit pénal, c'est ça. Alors, la présentation du droit pénal évolue un peu. C'est un droit de punition au nom de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va considérer que les comportements incriminés, sanctionnés par le droit pénal, sont des comportements qui portent atteinte à la société. L'intérêt collectif consiste à sanctionner ces comportements-là et les sanctionner de manière plus ou moins importante. Donc vous avez vos trois grandes catégories, à l'intérieur vous trouvez différents types de contraventions, différents types de délits, différents types de crimes. Et évidemment, c'est une idée de gradation en fonction de la gravité du comportement incriminé. Donc c'est un droit de punition. Au regard de ces trois catégories, avec un ordre croissant de gravité, la société considère qu'il y a lieu de sanctionner. Et vous avez là encore, hein, le droit évolue en permanence. Vous avez des dispositions pénales qui naissent chaque jour parce que on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux comportements infractionnels. Un exemple très récent, la loi de mai, la loi pour sécuriser Internet, c'est pas la peine de noter, je vous donne juste un exemple comme ça. On a maintenant une disposition spécifique pour sanctionner ce qu'on appelle les deepfakes pornographiques. C'est-à-dire que vous trouvez maintenant, depuis 3 mois, dans le code pénal, une disposition qui sanctionne le fait de créer et de diffuser un deepfake, c'est-à-dire une image générée par une intelligence artificielle, où vous avez utilisé le visage d'une personne, à, je crois, 97% le visage d'une femme, pour générer une image pornographique. La disposition qui sanctionne ça en pénal, elle a 3 mois. Avant, on sanctionnait sur le terrain, on pouvait sanctionner, hein, les deepfakes pornographiques, ça n'a pas 3 mois, mais on sanctionnait sur une disposition qui était un peu plus large et qui était relative au montage. Voilà. Là, les deepfakes, la différence, c'est que d'abord en termes de, comment dire, d'illusion presque, c'est bien plus flagrant pour certains. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de vous générer une image où vous allez vous poser la question. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile. N'importe quel, pardon de le dire comme ça, c'est juste dit entre nous, mais parce que quand on se livre à ça, il faut quand même avoir un grain. Mais n'importe quel crétin avec un smartphone, maintenant, peut le faire. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences particulières et d'être un génie sur Photoshop pour pouvoir générer un deepfake pornographique. Donc, vous avez une disposition particulière. Depuis mai 2024, là, antérieurement, il n'y avait pas de vide juridique, on avait une disposition sur les montages, et on considérait que finalement c'était un montage avec une intelligence artificielle, on sanctionnait quand même. Mais vous avez désormais une disposition propre à ça. Donc c'est un exemple, là pour le coup, dans la catégorie délictuelle sur les deepfakes, mais c'est pour vous dire aussi, même là, ça évolue, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle problématique, vous allez trouver un nouveau texte. Donc, l'une des fonctions du droit pénal, c'est la punition. C'est un droit répressif, c'est-à-dire que la société entend punir, incriminer le comportement qui est considéré comme problématique. Cette punition, on avait évoqué quelques sanctions du droit pénal, elle peut prendre plusieurs formes, des peines privatives de liberté, notamment des peines de prison, des amendes, etc. C'est vraiment dans une logique de sanction, de punition de l'auteur de l'infraction. Quand le civil, notamment avec les dommages et intérêts, est plus dans une logique de réparation. Et typiquement, sur la logique des deepfakes, vous avez aussi la possibilité, en tant que victime, si ça vous est arrivé, mais d'obtenir une réparation avec les dommages et intérêts. Donc je vous dis, c'est un droit de punition, un droit répressif. Pas seulement. Et là, pour le coup, je parle surtout du droit pénal moderne. On est aussi maintenant dans le droit pénal moderne, dans une logique de réintégration dans la société. Voilà. Alors, ça dépend des comportements, mais il y a aussi une logique, c'est plus juste un droit de répression. C'est un droit qui va permettre aussi l'accompagnement de l'auteur de l'infraction, pour essayer de faire en sorte de limiter les cas de récidive. Voilà. Un accompagnement, une possibilité de réinsertion dans la société une fois que la peine s'est écoulée, hein, parce que c'est aussi l'objectif, alors ça dépend de la durée de la peine, mais il ne faut plus voir le droit pénal exclusivement comme un droit strictement répressif. Il l'est, c'est une de ses fonctions premières, mais ce n'est plus seulement ça. Et typiquement, des juridictions, vous en entendez peut-être parler, parce que malheureusement, dans certains faits divers, on en entend parler régulièrement aux informations, les juges d'application des peines prennent en compte ce type d'évolution aussi, si c'est des peines d'emprisonnement du détenu, pour voir s'il y a vocation à peut-être aménager, changer, raccourcir la durée de la peine. Il y a tout un réaccompagnement comme ça, donc il ne faut plus voir le pénal juste comme un droit de sanction, de punition, même s'il le demeure, c'est l'un des buts, mais c'est plus uniquement ça. Alors, le pénal, classiquement, historiquement, se classe dans le privé. Voilà. Ce qui explique notamment, je vous dis que, pour le coup, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on est enseignants-chercheurs quand on est privatiste, en droit privé et sciences criminelles. Il n'empêche que du coup, on a la double casquette. Ça veut dire que même dans l'intitulé, par essence, les sciences criminelles, donc le pénal, s'intègrent pas dans le privé.
Vous avez le double, mais on le rattache, disons. Donc, si vous voulez faire du pénal, il y en a qui sont attirés par le pénal à main levée, là. Ouais, c'est toujours un gros... une grosse proportion. C'est très bien, hein. Évidemment, on a besoin de pénalistes. Vous allez plutôt avoir un cursus de droit privé. Voilà. Et après, vous vous spécialiserez en pénal. Donc, c'est plutôt un droit qui est rattaché au droit privé. Mais c'est un droit qui fait intervenir de manière évidente la puissance publique. C'est l'intérêt général de la société qui guide la définition des infractions et qui guide aussi les actions qui sont menées. L'action, elle est menée au nom de la société. Et après, vous avez des parties civiles du côté des victimes. Mais l'action, c'est l'État qui la mène, en fait, contre l'auteur de l'infraction. Donc, évidemment, ça veut dire que l'intérêt général, et c'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous disais que le critère de l'intérêt, il était ambigu. L'intérêt général, il irrigue l'intégralité du droit pénal. Il est partout. L'intérêt général, c'est le premier intérêt qu'on protège en pénal. Et après, évidemment, on protège aussi les intérêts individuels. C'est compliqué de faire la répartition. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas très à l'aise avec le critère de l'intérêt. Typiquement, vous avez dû voir cette affaire abominable qui se déroule en ce moment avec l'épouse qui a été violée par les 50 personnes qui sont là dans la box des accusés. Il faut visualiser le truc quand même de 50 accusés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dû... Bah, vous chercherez, hein, c'est partout. Hein. Ils ont dû réadapter les box pour pouvoir contenir... Donc il y a une affaire comme ça en ce moment. Donc on se s'épargnera là, on enfile les détails. Il y a une nécessité évidente de faire sanctionner pour l'intérêt particulier de l'épouse qui a subi ça. Il y a de manière au moins aussi évidente l'intérêt pour la société de sanctionner ces comportements-là. Voilà. Donc la départition entre intérêt individuel, intérêt général, intérêt collectif, particulièrement en droit pénal, elle est très très difficile à identifier. La gravité des comportements, alors évidemment, plus on monte et plus l'intérêt général est concerné, mais la gravité des comportements est telle que l'ensemble de la société a intérêt à faire cesser le comportement en question et à le faire sanctionner. Voilà. Donc évidemment, la victime est au premier plan. Il ne s'agit pas du tout pour moi ici de dire qu'il faut la mettre en retrait. C'est pas ça du tout. Mais... si on raisonne par l'intermédiaire de la notion d'intérêt, je crois qu'on a tous intérêt à faire en sorte que des individus comme ça soient identifiés et sanctionnés. Après, encore une fois, on se passe ici les détails de cette affaire-là, mais c'était un exemple pour vous expliquer. Donc, le rattachement se fait au privé. On considère que c'est l'intérêt particulier qui prime, en fait, dans la sanction, mais la présence de la puissance publique en pénal, elle est permanente. Donc si vous devenez pénaliste, vous serez en fait des privatistes avec une vraie casquette de publiciste aussi. Voilà. Vous connaîtrez les méandres de la puissance publique bien mieux que d'autres catégories de privatistes qui sont plus dans les branches juste privées. Second grand droit mixte, c'est le droit social. Alors là, c'est un peu différent. Dans le droit social, vous allez avoir du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. C'est deux sous-branches, en fait, deux subdivisions internes à la subdivision qui est le droit social. Le droit du travail, d'abord, c'est le droit que vous allez appliquer dans les relations de travail. Pardon pour la redondance, mais ça s'aborde comme ça. Donc, c'est le droit qui encadre les travailleurs salariés, les employeurs, etc. Vous allez avoir des règles sur les embauches, les types de contrats possibles, les droits du salarié, les obligations du salarié... les règles de rupture du contrat de travail, les règles sur le droit de grève, etc. Le droit du travail, c'est ça. Donc on voit bien que le champ est très large. Et puis en parallèle, vous avez donc ce qu'on appelle le droit de la sécurité sociale, qui est en gros le droit qui encadre toutes les règles qui garantissent le travailleur contre ce qu'on appelle les risques sociaux, c'est-à-dire les accidents de travail, les allocations chômage le cas échéant, etc. Traditionnellement, comme pour le pénal, ce droit social, il est rattaché au droit privé. Donc pareil, je ne sais pas si certains d'entre
entre vous, Céline, au revoir du travail, à main levée. C'est moins. Mais c'est souvent moins que le pénal. Mais vous ne faites pas d'illusions, hein. C'est moins que le pénal aussi parce que c'est moins connu. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bien d'être habité par un vœu en arrivant. Et certains vont suivre leur ligne et en bougeront pas et seront confortés au fur et à mesure que les années passent. Il y en a plein parmi vous qui vont découvrir des matières aussi. Le pénal, vous l'avez dans les séries, plus américaine que française a priori pour vous, donc en plus c'est pas du droit français, c'est du droit américain. Vous l'avez dans plein de choses, on en parle tout le temps. Il y a, voilà, une connaissance sans faire de droit du pénal qui est plus grand. Le droit de la sécurité sociale, là tout de suite, voilà, c'est pas particulièrement attractif pour vous parce qu'il y a une méconnaissance aussi. C'est beaucoup ça. Vous êtes habité aussi par un truc parce que vous connaissez. Donc, vous allez voir, vous allez découvrir, mais c'est, voilà, la réponse au sondage, là, n'est pas particulièrement étonnante. Là, pour voir, pour moi, qui serait plutôt propriété intellectuelle numérique ? Faites semblant qu'il y en ait quelques-uns, un peu. D'accord. Je refais le sondage à la fin du semestre. J'essaie. Donc, traditionnellement, une branche du droit privé. Il n'empêche que là encore, évidemment, il y a une intervention de la puissance publique très claire. La question des allocations chômage, quand vous allez, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ils changent de nom tout le temps, c'est France Emploi. France Travail, pardon. France Travail. C'est une omniprésence de la puissance publique. Voilà. La perception, l'organisation des allocations chômage, le réaccompagnement quand il existe, pour trouver un emploi, etc. Tout ça, c'est en fait complètement assuré par la puissance publique. C'est l'État qui crée tout ça. Et c'est l'État qui accompagne, etc. Donc certes, ce sont des intérêts individuels. Certes, dans une majorité de cas, pour le droit du travail, ça va être des relations privées, entre un employeur privé et un salarié de droit privé. C'est des relations de droit privé en classe là. Pour le droit de la sécurité sociale, c'est beaucoup moins évident. Les inspections du travail, c'est pareil. C'est des agents assermentés de l'État. Donc là, pour le coup, vous avez bien une personne qui représente l'État. Donc on le classe dans le droit privé parce qu'il faut bien le classer quelque part, mais en réalité, le droit social, c'est pareil. Si vous devenez des juristes spécialisés en droit social, pour le coup, vous serez des privatistes avec une coloration publique quand même, relativement importante. Troisième droit mixte, pour le coup, contre toute attente, c'est le droit international privé. Alors, ça peut paraître étonnant, d'autant que, si on revient, il y a deux slides, le droit international public, lui, on l'a classé dans le public sans se poser la question. À raison, hein, je ne remets pas ça en cause. Eh bien, c'est moins évident pour le droit international privé. Pour le coup, le droit international privé, je ne l'ai pas mis dans le pur droit privé. On le classe par facilité de pensée. Dans le droit privé, il est plus facilement rattaché au droit privé qu'au droit public, mais c'est pareil, vous allez trouver partout des problématiques de droit public dans le DIP, dans le droit international privé. Plusieurs raisons. D'abord, et c'est loin d'être un argument de second plan, hein, le droit international privé, il est complètement innervé par des logiques de souveraineté. Reprenez l'exemple que je vous ai donné, alors je ne sais plus les nationalités que j'ai données, mais un défunt qui avait la nationalité russe, qui est mort en Allemagne et qui avait un immeuble en France, une maison en France. Vous vous doutez bien que chaque législation pousse pour être la législation applicable. Les logiques de souveraineté, elles font que chacune de vos législations internes, elles vont essayer d'être le plus souvent compétentes. Donc, il y a des logiques de conflit de souveraineté assez fortes dans le droit international privé. S'il y a des logiques de conflit de souveraineté, c'est qu'il y a des logiques de conflit de puissance publique entre elles. Ça relève plutôt d'une logique de droit public. Et puis, par ailleurs, nous, on a donné un exemple qui, dans les faits, était un exemple de pur droit privé sur une question de succession et de répartition d'un immeuble. Mais vous allez régler d'autres trucs avec le droit international privé. Un enfant, je prends des exemples vraiment tranchés, hein, un enfant qui naît d'un père japonais et d'une mère brésilienne,
sur ou dans un avion qui faisait le lien entre New York et Paris. C'est quoi sa nationalité à l'enfant? Ça, vous ferez du DIP, je ne vous donne pas la réponse, je vous explique la question. L'intérêt, là, c'est une question de détermination de la nationalité. Les problématiques d'obtention de nationalité, c'est aussi beaucoup des problématiques qui concernent la puissance publique et qui concernent l'État. À qui l'État reconnaît-il la nationalité? Dernier droit, encore une fois, on aurait pu en ajouter d'autres, je vous donne les grands qui peuvent poser difficulté. Dernier droit qui est considéré comme un droit mixte, c'est ce qu'on appelle le droit processuel. J'essaie de m'arrêter à 40, si à 45 je ne me suis pas tue, vous me faites des grands signes. Je vais être en retard. Me faites pas de signes avant, j'ai l'heure, c'est juste que parfois je ne regarde pas. Dernier grand droit qui peut être considéré comme un droit mixte, c'est le droit processuel. Alors, un mot d'abord pour expliquer ce que c'est que le droit processuel. C'est le droit de la procédure. Quelle est l'utilité du droit de la procédure? Alors, pour comprendre, il faut opposer ce droit processuel à son alter ego, qui est le droit matériel, substantiel. Vous avez d'un côté le droit substantiel, de l'autre côté le droit processuel. Pour dire les choses simplement, le droit substantiel, il va poser le contenu de la règle de droit, ce qu'on envisage depuis le début du cours. Mais pour que ce droit substantiel, pour que cette règle de droit substantielle, elle soit pleinement efficace, encore faut-il qu'on puisse faire valoir nos droits en tant que citoyen. Et c'est là que le droit processuel prend le relais. Je prends un exemple tout bête. On vous a piqué votre iPhone là dans l'amphi pendant que vous travaillez. On sait qu'il y a des règles dans le code civil qui établissent la notion de propriété de bien. On sait qu'il y a des règles dans le code pénal qui répriment le vol. Ok, donc mon droit substantiel, je l'ai. J'ai mes règles sur le droit de propriété, j'ai mes règles qui sanctionnent le vol. Mon droit substantiel, il est carré. Qu'est-ce que j'en fais? Alors vous vous mettez au milieu de l'amphi en criant « au voleur, au voleur, au voleur ». Et ensuite, ensuite le droit processuel. Quel juge je peux saisir? Dans quelle ville? Sur quel territoire? Dans quel délai? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un avocat? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste une option? C'est ça le droit processuel. C'est-à-dire c'est le droit qui vous permet de donner de l'effectivité à votre droit substantiel. Ok, la règle de droit me reconnaît des prérogatives et va sanctionner la personne qui est à l'origine du vol, si on la trouve. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'organise avec ces règles de droit-là? Pour ça, vous vous tournez vers le droit processuel. Et évidemment, puisqu'il y a plusieurs types de droits substantiels, il y a plusieurs types de procédures. En gros, si je schématise, vous avez du droit de la procédure civile, du droit de la procédure administrative, du droit de la procédure pénale. Donc, en fait, dans le droit processuel, la procédure civile, c'est du privé, hein. La procédure administrative, c'est du public. Puis la procédure pénale, c'est du privé parce qu'on range le pénal dans le privé, mais c'est du privé qui est coloré avec du public. Voilà. Et c'est pour ça que le droit processuel, ça fait partie des grands droits qu'on met dans les droits mixtes. Parce qu'en fait, en fonction des subdivisions, alors lui, pour le coup, il va aller soit complètement en privé, avec la procédure civile, soit complètement en public avec la procédure administrative, soit se maintenir dans le droit mixte avec la procédure pénale. Alors, vous avez ici un éventail, et un éventail seulement, des typologies de droit mixte et de ce qui peut relever effectivement d'une mixité, ce qui peut relever d'un entre-deux et qui montre que vous avez parmi les branches, des branches qui effectivement, c'est une métaphore évidemment, mais qui s'enchevêtrent entre le public et le privé, qu'on rattache pour plein de nécessités pratiques, en règle générale plutôt au privé qu'au public, mais qui en réalité sont extrêmement connotées aussi côté puissance publique et donc côté droit public. Une fois qu'on a terminé ça, on en finit du coup avec les questions de division. On a donc, à l'heure actuelle, réglé en fait deux questions sur quatre, la question des caractères de la règle de droit, générale abstraite avec une finalité sociale extérieure et contraignante, avec une force obligatoire, et la question des divisions spatiales, internes, européennes, internationales, et des divisions en fonction du type de relation avec privé-public, entre les deux avec les droits mixtes. Il nous reste deux questions sur quatre sur le droit objectif. J'annonce tout de suite que c'est les plus dures, deux dernières. Je les garde derrière. Donc. Alors, il faut préciser aussi ce propos-là, les plus dures. Donc, c'est les sources hein, qu'on va faire maintenant et il y aura l'application du droit. Elles ne sont pas inabordables, ce n'est pas incompréhensible, c'est plus technique. Voilà. Il faut, et c'est là aussi que je crois que la présence en amphi est décisive, parce que ça vous accompagne dans un cheminement de pensée. Ouais, la hiérarchie des normes et les différents types de contrôle tout seul devant un manuel, c'est lourd. Les conflits de loi dans le temps qu'on verra dans le chapitre 4, c'est lourd aussi. C'est pas infaisable, encore une fois, si certains se sentent, n'hésitez pas, mais c'est technique. Voilà. Ici aussi, ça va être un peu technique. Hein. C'est pas les parties où on va rigoler le plus. On va essayer de rendre ça le plus clair possible, mais c'est des enjeux qui sont très techniques. Pourquoi ? Si on commence là, le chapitre 3 sur les sources. Si on essaye de résumer un peu tout ça, à ce stade-là, on a un peu une idée plus nette de ce que c'est que le droit objectif. Voilà. On sait que c'est le corps de règles générales abstraites édictées par l'État ayant force contraignante et que ces règles Elles peuvent relever de différentes branches du droit, qui a une structure duale entre droit public et droit privé, qui permet un ordonnancement des règles selon le contenu. Mais les règles, elles peuvent venir aussi de sources différentes, émaner d'émetteurs différents. On en a eu un premier aperçu quand on a fait les divisions dans l'espace en réalité. On a commencé à voir ça en faisant les divisions dans l'espace et on a vu qu'effectivement, il n'y a pas que le Parlement. En première année, assez simplement, et parce que c'est logique, c'est ce qu'on représente aussi en priorité, on va penser plus facilement, plus spontanément à la loi. Voilà. Le droit, c'est la loi. Alors, ce n'est pas une erreur. Hein. Évidemment que la loi fait partie des règles de droit. Et elle fait partie des règles de droit premières. Mais c'est très 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 loin d'être la seule source. Et si on raisonne ce qu'on fera lundi, peut-être même mercredi, si on raisonne en termes de hiérarchie entre les sources, puisque c'est à ça que ça va nous amener en fait, c'est pas la loi la source la plus importante dans la hiérarchie des normes du tout. C'est une source parmi d'autres. Mais donc des sources, on en a plein. Et donc, il faut se garder de croire que la loi qui est voté par le Parlement. Ah oui, alors je n'ai pas dit ça. Souvent, quand on parle du Parlement, on parle du législateur. C'est une métaphore. Il n'y a pas de personne unique derrière le terme. Je le dis parce que ça n'a rien d'évident, en fait, quand on le découvre. Il n'y a pas de personne unique derrière la notion de législateur. Moi, je l'ai déjà employé un certain nombre de fois, là, en 5 heures. Le législateur, en fait, c'est une image pour désigner les parlementaires qui ont adopté la loi. Pour des législateurs, c'est ça. De la même manière qu'en fait, quand on dit le juge, c'est une approche un peu générale pour désigner la jurisprudence. Donc, je vous disais, la loi, elle est votée par le Parlement, elle est adoptée par le législateur, c'est une des typologies des sources. Mais en fait, des sources, vous en avez plein, au point qu'on va à la fois diviser et subdiviser les sources. La grande division entre les sources, elle s'opère entre d'une part, les sources écrites, et d'autre part, ce qu'on appelle les sources complémentaires. Dans les sources principales, qui sont donc les sources écrites, vous allez retrouver toutes les sources qui émanent d'une autorité instituée. Donc, vous allez retrouver la Constitution, les traités, le droit de l'Union, la loi, les règlements. Ne vous inquiétez pas, on va détailler ça vraiment de manière extrêmement minutieuse par la suite. Mais c'est en gros la Constitution, les traités, l'Union européenne, la loi et les règlements. Voilà. Les sources instituées, les sources principales, c'est ça. En parallèle de ces sources principales, vous allez trouver deux catégories de sources complémentaires. Une catégorie qu'il faut connaître, mais que vous n'allez pas rencontrer tous les trois jours, qui est la coutume. Je vous expliquerai dans le détail ce que c'est, mais c'est la première des sources complémentaires. Encore une fois, vous allez... Vous n'allez pas la rencontrer tous les deux jours. L'autre grande source, et alors celle-là pour le coup, allez, la moitié, les deux tiers de votre boulot d'apprentissage du droit, ça va reposer sur l'apprentissage de la jurisprudence. Source complémentaire, parce que ce n'est pas une source instituée, mais c'est une source absolument décisive sur la pratique du droit. Voilà. Et ça rejoint l'idée centrale depuis la première heure du début du cours, qui est que le droit est une matière vivante, et que par définition, les décisions de justice, elles vont plus vite que le droit écrit, que les sources instituées. Le juge, il a tout le temps l'opportunité de faire évoluer sa jurisprudence. Donc la jurisprudence est sans doute la source la plus vive, la plus réactive par rapport aux nouvelles questions qui se posent. Et donc certes, c'est une source complémentaire, mais c'est une source absolument centrale, pour ne pas dire encore une fois, la première source, que vous allez solliciter en tant qu'étudiant dans l'apprentissage. Donc évidemment, on va se concentrer sur les sources, sur une dichotomie entre les sources principales et les sources secondaires, les sources complémentaires ensuite. Donc d'abord, une première section sur les sources principales. Elles vont évidemment, les sources principales, solliciter une bonne partie de notre temps. Parce que c'est l'un des points les plus essentiels pour une introduction au droit. Voilà. S'il y a peut-être 3-4 points essentiels à retenir dans une intro au droit, ben, les sources et l'organisation des sources, incontestablement. Pardon. Les sources et l'organisation des sources, évidemment, ça en fait partie au premier plan. Si vous voulez comprendre le droit, la façon dont fonctionne le droit, il faut absolument comprendre la façon dont fonctionnent les règles et donc d'où viennent les règles. Comment se réalise la coexistence entre des règles qui viennent d'horizons différents? Parce que c'est ça qui va nous intéresser en fait ici. Il va y avoir deux temps. Un temps de présentation des sources, pas vous mentir, un peu fastidieux. Qu'est-ce que c'est que la Constitution? Qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que... Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en fait. Je ne vous fais de présentation des sources que pour vous expliquer comment les sources coexistent et le cas échéant, comment on règle les conflits de sources. Qu'est-ce que je fais si j'ai un traité international qui ne dit pas pareil qu'une loi? Qu'est-ce que je fais si ma constitution ne dit pas pareil que le traité? Qu'est-ce que je fais si ma loi ne dit pas pareil qu'un décret? Voilà. Et pour comprendre comment vous allez résoudre les conflits, il faut faire un panorama des différentes sources. Voilà. Mais en fait, ce qui m'intéresse derrière cette espèce d'inventaire des différents types de sources, c'est précisément la question du conflit et de la résolution du conflit. Donc, on va étudier ces sources principales-là. D'abord, encore une fois, en faisant une présentation des sources, mais surtout ensuite en explicitant comment elles coexistent. Pensez pas que les questions de conflit de sources, c'est des questions anecdotiques. Là encore, revenez toujours à l'origine de ce qu'on a dit. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de règles de droit qui sont adoptées partout, tout le temps, dans toutes les matières et dans tous les horizons possibles. Partout. Donc le risque de conflit, alors quand je dis conflit entre des sources, je parle de contradiction entre deux sources. Sur une même question, vous allez avoir un traité qui vous dit blanc et la loi qui vous dit noir. Qu'est-ce que je fais? Et donc évidemment, plus il y a de sources qui sont créées, et plus le risque est grand d'avoir des contrariétés entre deux textes. Quand vous avez 15 sources applicables, bon, globalement ça va, on peut vérifier qu'il n'y a pas de contradiction. Quand il y en a 7000, ça commence à devenir un peu plus compliqué d'être sûr qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes.
Et donc, quand il y en a plusieurs centaines de milliers, comme on en a aujourd'hui, et ben forcément, il y a des problèmes qui peuvent passer entre les mailles du filet, et on se retrouve avec, dans le droit positif, des textes qui ne disent pas la même chose. La question qu'on va se poser maintenant, c'est évidemment de savoir comment on sort de cette contrariété, comment on sort de ce conflit. Pour comprendre ça, il faut se lancer dans une présentation des différentes sources qui existent. C'est un préalable, donc ça fait l'objet d'un paragraphe 1, pardon, une présentation des sources. Vous ne pouvez pas envisager la hiérarchie des normes et les conflits intrinsèques à cette hiérarchie sans avoir fait un travail exhaustif, total, complet d'identification de toutes les sources principales. Il n'y a que quand vous aurez fait le travail de recension de toutes les sources que vous pourrez vous demander « Ok, maintenant, comment je les classe ?» Mais avant de les classer, il faut les avoir identifiées. Vous ne pouvez pas fonctionner différemment. Encore une fois, quand on vous parle de règles de droit, donc quand on vous parle de sources des règles aussi, vous pensez au Parlement français, même si maintenant vous avez sans doute une conscience bien plus grande de l'importance du Parlement européen, mais c'est évidemment pas la seule source, le Parlement français. Même pas juste dans l'ordre interne d'ailleurs. Évidemment, derrière, il y a l'ordre supranational avec des règles de l'Union, des traités, etc. Mais même à raisonner en droit purement national, il y a d'autres sources. La loi n'est pas la seule source, y compris dans l'ordre interne. Le Parlement n'est pas le seul organe susceptible de créer des règles de droit en droit français. Et a fortiori, quand vous ouvrez au niveau de l'Union et au niveau des traités, évidemment, les sources possibles, c'est-à-dire les émetteurs qui vont créer les règles de droit, se multiplient. Et donc, il faut tous les identifier. On retrouve ensuite une logique qu'on a déjà rencontrée à propos des divisions du droit. L'origine de la règle, elle n'est pas forcément nationale. On va avoir une omniprésence ici du droit de l'Union européenne et on va devoir réaborder aussi la question du droit international, du droit conventionnel, c'est-à-dire les conventions, les traités qui sont conclus par l'État français et essayer d'identifier comment elles vont s'appliquer, ces sources-là. On commence là. Je réfléchis à comment je m'organise. Vous emballez pas, j'ai pas dit qu'on s'arrêtait maintenant. J'hésite. Vous avez mis des réveils pour me faire m'arrêter ? C'est presque vexant. J'explique les sources supralégislatives, j'en ai pour 5 minutes, et on s'arrête avant la Constitution parce que j'aurai pas le temps de la traiter. Et je déteste m'arrêter sur un morceau. Arrêtez d'exprimer de la joie. Intérioriser la joie. Donc, d'abord un grand A sur les sources supralégislatives. J'en ai pour 3 minutes, mais c'est essentiel à piger par contre. Ouais, faites les photos aussi, ça vous rassure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas d'outils pour vous les mettre en ligne, donc si ça vous aide, allez-y. Me prenez pas moi en photo juste par pitié. Les sources supralégislatives. Quand je parle de sources supralégislatives, encore une fois, là j'ai besoin de votre concentration max pendant 3-4 minutes, mais c'est parce que c'est un peu technique et qu'il ne faut surtout pas vous gourer sur le sens des termes. Je commence donc par les sources supralégislatives. Quand je dis supralégislatives, j'entends par là les sources ayant une autorité supérieure à la loi. Supralégislative, c'est supérieur à la loi. Donc, grand A, les sources supralégislatives, je vais évoquer ici toutes les sources qui vont se retrouver dans la hiérarchie des normes avec une valeur plus grande que la loi. On va évidemment réapprofondir cette question quand on parlera de la pyramide des normes, de la hiérarchie des normes, mais il faut comprendre tout de suite ce terme-là. Au titre des sources supralégislatives, on peut citer la Constitution, mais aussi, et c'est là qu'il faut être vigilant, les sources supranationales. Ça signifie que sources supralégislatives et sources supranationales ne sont pas de parfaits synonymes. Toutes les sources supranationales qu'on va envisager là, donc supranationales, c'est qui ont été élaborées au-dessus de l'État,
Donc, Union européenne, droit conventionnel, les traités, les accords et conventions. Toutes les sources supranationales, au-dessus de l'État que l'on va envisager là, sont des sources supralégislatives, sont des sources qui ont une valeur plus grande que la loi. Dans ce sens-là, ça marche. Toutes les sources supranationales qu'on voit là sont des sources supralégislatives. Mais toutes les sources supralégislatives ne sont pas supranationales. Accrochez-vous. C'est normal que ce soit... C'est compliqué, mais une fois que vous avez pigé le truc, pourquoi toutes les sources supralégislatives sont pas supranationales? Parce que ma Constitution, elle n'est pas supranationale. Ma Constitution, elle est franco-française. Elle n'est donc pas supranationale. Elle n'a pas été élaborée au-dessus de l'État, dans une autre entité. Pour autant, elle est bien supralégislative au sens où elle a bien une autorité supérieure à la loi. Donc, je vous le disais, je le redis maintenant qu'on a un peu explicité, toutes les sources supranationales qu'on voit ici sont bien des sources supralégislatives. Elles ont une valeur plus grande que la loi. Elles sont au-dessus de la loi dans la hiérarchie des normes. Donc, dans ce sens-là, ça marche. Toutes les sources supranationales vues ici, parce qu'il y en a certaines qu'on n'abordera pas et qui n'ont pas la même valeur, les coutumes internationales, etc. Mais toutes les sources supranationales qu'on voit ici sont supralégislatives, ont une valeur supérieure à la loi, mais toutes les sources supralégislatives qu'on voit ici ne sont pas supranationales. La Constitution, elle a une valeur supérieure à la loi, donc elle est supralégislative, c'est un texte franco-français, donc elle n'est pas supranationale. Qui est paumé? Pour qui est-ce que ça va? Qui ment pour sortir maintenant? Ok. Si ça va, on s'arrête là-dessus. Je ne vais pas commencer la Constitution en 4 minutes, c'est ridicule. Attendez! On s'arrête là-dessus. Je vérifie juste, on a bien cours lundi à 9h.